bienvenue à toutes et à tous sur Radio Crapon pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, nous allons accueillir André Crémieux qui va nous parler de son dernier livre, La folle de Saint-Sauveur. Elle était très sauvage, on va le voir avec lui. Donc on va le retrouver dans quelques instants. C'est une histoire qui se déroule durant la fin de la guerre, 1945 à 1947. On a déjà parlé avec d'autres livres de ces prisonniers allemands qui amenaient leurs bras dans les zones rurales, puisque les Français étaient de l'autre côté. Ils faisaient pareil d'ailleurs, je pense qu'on en parlera. Donc on va le retrouver dans quelques instants, André Crémieux, ancien professeur des écoles qui s'occupait des enfants en difficulté. On va le retrouver dans quelques secondes. Chose promise, chose due, on accueille André Crémieux. André, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors, bienvenue sur Radio Crapon. Alors, tout d'abord, on va te présenter. J'ai vu que tu étais né à Gap.
Oui.
Dans les Hautes-Alpes, c'est les Hautes-Alpes.
C'est les Hautes-Alpes.
Ou les Alpes-Maritimes.
Oui, ah non, pas du tout.
Non.
Les Hautes-Alpes.
C'est 04, Gap, non ?
05.
Ah, 05. Voilà, tu es né à Gap. Et alors, tu es arrivé en Haute-Loire depuis longtemps ou tu es venu jusqu'à la retraite ?
1958.
Ah oui, ça fait quelques années.
N'est-ce pas ?
T'as abandonné une belle région quand même, Gap, tout ça.
Oui, ben d'abord j'y mets les romans que je fais. Voilà.
D'accord.
Ça se passe toujours dans la région de Gap.
Très bien. Disons. Alors, avant de parler de ce livre, La folle de Saint-Sauveur, je voudrais qu'on reparle un petit peu de ce que t'as fait avant, parce que t'en as écrit quand même plusieurs.
Dizaines, disons.
Ouais.
Dizaines, on va dire ça.
Ah oui. Donc il y a eu, là c'était sur l'histoire, à la Baume d'Arlande.
Ah ça c'était de l'archéologie préhistorique.
Oui,
alors,
oui.
Ça,
mais tu l'as écrit quand même.
Oui,
ouais, je crois, en 1980, ça fait quelques années, mais enfin tu l'as écrit. Donc ça faisait partie des éditions des Cahiers de la Haute-Loire avec le concours du CNRS. Donc on peut dire que ton premier roman c'est Baptiste Aymard en 84.
Oui. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, c'est un roman. Parce qu'avant, c'était des études, et puis là, c'est un roman.
Alors, tu l'avais... il a même été mis en feuilleton dans L'Éveil de la Haute-Loire.
Eh oui.
Donc, c'est bien.
C'était bien sympa.
Après, tu as écrit autre chose, Petit outil en obsidienne de l'île de Pâques. C'est en 87, ça.
C'était précisément des petits outils, une petite histoire, un petit voyage, enfin un long voyage, mais une petite histoire. Bon, ça, c'est l'île de Pâques, en plein Pacifique. Bon.
Voilà. Tu avais été ou pas ?
Oui.
Ah oui, c'est pour ça.
Une vingtaine de jours, c'est pour ça.
Ah oui, c'est pour ça, d'accord. Oui, il y a une relation, quand même. Alors après, un autre roman, La sirène et le chapiteau, roman 1997. Non, c'est une étude, ça.
Ça, c'est une étude.
Ouais, sur ?
Les églises.
Ah, les églises, d'accord.
Les églises, essentiellement. Ouais. Les églises, l'art roman, les chapiteaux, voilà.
D'accord. T'es un peu... T'aimes l'histoire un peu, toi, non ?
Plutôt.
l'histoire même patrimoniale, là, passer le patrimoine un peu, dont on parlait là.
Bien sûr.
Alors, voyage au pays des Béates, ça continue, parce que alors les Béates, alors ça on connaît.
Alors ça, c'est, voilà.
Et puis, de plus en plus, il y a des maisons qui se restaurent.
Ouais. Et les donc, assemblées, oui, tout ça. Ouais, mais tu sais, c'est pas mal, C'est bien cette histoire, parce que j'ai vraiment l'impression, d'ailleurs, on va commencer à parler de la mémoire, là. Ouais. J'ai vraiment l'impression que la Béate, elle est dans les mémoires, tu vois, même s'il n'y en a plus. Tu vois,
oui.
Ce sont les souvenirs des souvenirs, souvent.
Oui, c'est
et
vrai.
C'est ça qui est intéressant. On va y venir.
Oui. Alors après, alors là, c'est en 2007, on se rapproche quand même aux éditions du Ruhr. Tu as écrit La dédorure.
Oui, mais j'étais venu à Radio Crapon.
Mais t'étais venu, oui, mais alors ça fait 9 ans.
Ça fait longtemps. Oui.
Alors, en quelques mots, ça parlait de...
On se parlait d'une statuette en bois qui s'était déglinguée au cours des âges. Elle avait vécu pendant 200 ou 300 ans. Et elle était symbole, synonyme de toutes les aventures historiques de la maison où elle séjournait. Voilà.
Très bien. Après, il y a eu Claire de Haute-Provence, voilà, encore
là,
en roman.
Là, on entre dans ce que tu disais tout à l'heure, ouais. Tu es loin de chez toi. Non, ça, c'est la Provence de mes origines, la Haute-Provence, où il y a eu Claire, celui d'après qui s'appelle Les Crimes de la Garcine.
Hein? Impuni de la Garcine. Ouais. Bon, donc, c'est une suite ou ça a été...
Non, il n'y a pas trop de rapport. Il y a des allusions entre les deux, mais il n'y a pas de rapport.
D'accord. Donc là, tu disais que tu es dans ton pays, là-bas, ton pays qui t'a vu naître, hein, mais depuis 58 ans en Haute-Loire,
on peut dire... Je suis vélave. J'ai la double nationalité.
T'as la double nationalité. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ton dernier livre, La Folle de Saint-Sauveur. Alors, c'est vrai que tu t'es attelé à quelque chose... Alors, nous, on en parlait un petit peu, là, dans des romans, notamment dans le dernier roman de Duclos,
oui,
Les Amours prisonnières,
oui,
justement, où il y a cette histoire un peu. Hein.
Alors, je vais te dire tout de suite, c'est un sujet qui est assez récent, assez méconnu, parce que il est dans les mémoires, tu vois. Il est dans les mémoires et il n'a, sur le plan historique, qu'un impact très très modeste. Je veux dire que c'est très difficile de gratter la mémoire pour voir qu'est-ce qu'il reste de ces prisonniers allemands. Et c'est quand même quelque chose d'étonnant, parce que ces prisonniers allemands ont été distribués en France, amenés par les Américains. Ils étaient au nombre de 740 000 strictement en France, alors qu'ils étaient arrivés bien plus nombreux. Mais les Américains les ont confiés à la France, et la France s'est trouvée devant ce problème, qu'en faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois? Ça a été très difficile parce qu'il fallait à la fois respecter la Convention de Genève et puis éviter les épidémies, éviter parce qu'il y avait des quantités et des quantités de prisonniers allemands parqués. Et la France a eu l'idée de faire un dépôt, on dirait, un centre de regroupement par département. Ce qui fait que ces prisonniers se sont trouvés distribués en France entre 44, la fin 44, 45, surtout à la libération, en mai 45.
Oui, alors bon, on va en parler puisqu'on aura un petit mot sur Craponne, puisqu'à Craponne, ils ont eu un rôle important aussi, hein, on y viendra.
Alors, je te coupe, Jean-Pierre, et je m'en excuse, parce que la dernière histoire qu'on m'a racontée sur ce sujet, parce que tu vois, à partir de là, quand on cherche dans la mémoire, c'est une enquête. C'est une histoire sans historien. Hein. Ouais. Donc on va chercher des détails et des détails, des détails, qu'est-ce qu'il reste? Et bien la dernière histoire qu'on m'a racontée, figure-toi que c'est l'animateur de Radio Craponne, hein, ça te fait rire, qui m'a dit, tu sais pas, Crémieux, et bien le stade, le c'est terrain vrai. De sport de Craponne a ouais. été aménagé par les Allemands. J'ai l'impression que je suis en train de faire mon enquête là, c'est, moi, c'est le contraire.
Ouais. Non, mais ce qui est exceptionnel, c'est que ça fait quand même 45, si on rajoute, ça fait 70 ans, et le terrain n'a jamais... jamais refait. Il a été restauré, mais il avait été fait de manière admirable, parce que je peux te dire que depuis 70 ans, les gens jouent au foot dessus. Il n'y a qu'un terrain, il n'y a même pas d'un terrain d'entraînement. Il a été très solide, même si par endroits les drains sont... Mais c'est pour dire que c'est impressionnant. Hein. Et ça fait partie de l'histoire du foot de Craponne. Voilà.
L'histoire du foot de Craponne. Ça tombe dans l'histoire de la mémoire des prisonniers allemands.
Voilà,
c'est ce qu'on était en train de dire. Et ça, je crois que c'est intéressant.
Bien sûr.
Ce qui serait encore intéressant, ça serait... Parce que tu vois, c'est pas des témoignages directs.
Non.
Hein, tu l'as entendu dire,
voilà.
Et ben moi, c'est tout. Ça a été tout le temps comme ça, ce livre. C'est de construire une histoire que je n'ai eue que par écho, que par les enfants des gens qui avaient utilisé les prisonniers.
Ouais.
Seulement, regarde-moi bien, j'en ai connu un.
Tu vois, voilà.
En 47. Hein, j'avais 10 ans, donc ça dit tout sur mon âge, et en 47, j'ai vu, j'ai côtoyé, j'ai joué avec ce prisonnier qui est un des héros du livre.
Oui, parce que donc, on va parler bien sûr, c'est l'histoire des prisonniers, mais quand même, au milieu de cette histoire des prisonniers, il y a une histoire. Il y a, dans le roman, c'est la folle de Saint-Sauveur.
Une intrigue,
voilà.
Il n'y a pas de roman sans intrigue.
Voilà.
Et les intrigues peuvent être toujours des romans.
Ah, c'est ça. Donc, on va découvrir tout cela. Alors, toi, tu as donné des noms, bien sûr, fictifs à tes prisonniers, ou c'est vraiment des noms de prisonniers qui ont été...
Écoute,
ici
les quatre que je cite, ils ont existé. Les enfants de leurs employeurs, dans les années 45, me l'ont dit, m'ont raconté. Et oui, bien sûr que je leur ai donné, mais ils ont existé. Et notamment avec leur comportement, parce que c'est ça qu'il faut essayer de retrouver. Quelle mémoire les gens ont conservé de ces comportements. Il y en a un qui n'arrêtait pas de fumer, il y en a un qui s'est évadé. Tu vois, des choses comme ça.
Il y a eu plusieurs... Donc, on va les citer. Il y a Kurt, Karl, Jacob et Günther. Alors, c'est vraiment des prénoms bien allemands.
Hein. Bah, tout à fait.
Ouais. Et là, il n'y a pas de souci. Donc, à travers cette histoire... Je disais que c'est la sauvage tout à l'heure, mais elle est un peu sauvage. Parce que toi, tu dis que c'est une sauvageonne un peu ton.
Très juste.
La folle de Saint-Sauveur.
Très juste.
Alors, quel rôle elle va jouer ? Enfin, on ne va pas développer les livres, hein, mais elle va avoir un rapport avec tous ces prisonniers ?
Tout cela, non, rien qu'avec un.
Ah, rien
mais
qu'avec
un. Un rapport torride.
Ouais.
Si tu veux, l'histoire va s'orienter successivement dans les rapports entre les gens du pays et cette fille. Et ces rapports vont être d'abord et d'emblée dramatiques, parce qu'on est près de la libération. Et dans certains pays où il y a eu des prisonniers allemands, il y avait eu des exactions extrêmement cruelles, extrêmement graves, extrêmement DSS.
Ouais.
Hein, et notamment dans le village de Saint-Sauveur, inventé, à quelques kilomètres de là, il y avait eu quelque chose d'abominable. Et donc les gens ont forcément une haine viscérale, une haine fondamentale contre ces boches. Car le mot important dans le livre, c'est les boches. Ouais. Pour ou contre, à la limite. Ouais. Hein. Mais...
Oui, alors justement, oui, parce que là, à l'époque, on fait l'amalgame entre les Allemands et les nazis, ce qui n'est pas tout à fait pareil quand même.
Bien sûr. Alors, il y a des tas de nuances à apporter. Seuls les grands historiens qui travaillent sur le sujet... Bon, et là, il faudra peut-être qu'on cite le grand prof là, qui vient de faire un livre et une thèse et des choses très importantes sur ce sujet-là. Nous, à ras de terre, ce que je veux dire, à ras du sol, à ras des mémoires, c'est en somme ça. C'est les mémoires individuelles. Comment étaient-ils perçus par les gens de leur époque? Et bien, c'est pas compliqué. Tout le monde les détestait, sauf leur patron. Tu vois? Et on arrive à des réflexions de ce genre quand le Günther, dont tu parlais à l'instant, le Günther qui était placé dans une ferme, et qui dit, finalement, les moins mauvais, ce sont les employeurs. Ils apprécient qu'on les aide, non? On a au moins le boulot en commun. Ouais, ajouta Jacob, mon patron me laisse fumer quand je veux, sauf que la plupart du temps, j'ai rien à fumer.
Tu vois ? Oui, un trait d'humour.
Ça a toujours été... Et alors, quand ils vont au café, ces jeunes-là, ces jeunes prisonniers, ils sont insultés par la population. Tu vois ? Donc le livre va être le passage des scènes avec la fille, dont je t'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient assez chaudes.
Torrides.
Oui, comme si elle n'attendait que ça. Je ne sais pas si j'ai le droit de lire un Radio Craponne.
Bon, bien sûr, quand même. On censure rien.
Comme si elle n'attendait que ça. Elle avale ses doigts, les morts, attrape l'autre main, la pose sur son sein. Il se caresse à nouveau, à genoux, face à face. Il effleure son dos à deux mains, en serre sa croupe, remonte vers ses épaules. C'est une scène d'amour extrêmement torride. Enfin, extrêmement, il n'y a rien d'extrême actuellement.
Non.
Mais, elle est en opposition, cette scène, avec la haine que les prisonniers déclenchent aux yeux du pays, aux yeux des gens qui...
Et pourtant, cette haine ne devrait pas l'être, parce qu'ils sont venus donner... Alors, la guerre de 39-45, comme la guerre de 14-18, d'ailleurs, a fait pas mal, un peu moins de morts hein, quand même. Mais à la campagne, c'était les femmes qui étaient restées. Et donc, ces gens qui sont arrivés ont permis de continuer les travaux, parce que dans les fermes, il y avait plus l'homme, les hommes.
Alors, non. Oui, je pense que c'est un peu différent... À ce niveau-là, hein,
de 14-18.
De 14-18, il n'y avait strictement que les femmes qui restaient au pays. Et tu as raison de le souligner, les hommes étaient absolument tous au front.
Ouais.
Tandis qu'en 40, c'était un peu différent. C'était un peu différent dans la mesure où les soldats ont été très vite, tu le sais, français, je veux dire, hein,
ouais,
ont été faits prisonniers, hein, dans les Vosges, ça a été. Et il y en a beaucoup qui se sont retrouvés eux-mêmes ouvriers agricoles en Allemagne, en tant que prisonniers. Hein, il n'y a pas eu que les camps, heureusement peut-être. Il y a eu des gens qui sont allés travailler pour l'Allemagne.
Et puis le service, les STO, service travail obligatoire.
Bien entendu. Alors moyennant quoi, les prisonniers allemands dont on a parlé tout à l'heure, là, qui arrivaient en nombre en France, et bien ceux qui ont eu de la chance se sont retrouvés dans les fermes, ouvriers agricoles, et les autres, ils sont allés, il y a des scènes incroyables, il y a le déminage, hein, enrouler le fil barbelé, travailler dans des usines, et là aussi ils étaient en but à la haine, à l'animosité des populations. Tandis que dans les fermes, comme on vient de le voir, ils étaient appréciés, c'était des bons bougres qui faisaient le boulot de la campagne.
Oui, puis ils avaient un autre avantage pour eux, c'est qu'ils mangeaient à leur faim.
Oui, ce qui était tout à fait raison de dire, bien sûr,
qu'ailleurs.
Oui, oui. Et le mien en question, là, le Gunther, il est allé, il était tellement bien chez son patron qu'il a eu des aventures amoureuses assez réussies, quoi. Bon, mais tu mets l'accent sur les femmes, là, c'est extrêmement important, parce que c'est inouï quand on essaye de réfléchir sur la mémoire de la femme.
Ouais.
Entre 1944 et 1946-7, sont passés du tout au tout. En 1944, quand elles avaient eu des rapports intimes avec les Allemands, elles étaient tondues, elles étaient montrées du doigt. La fille en question, mais tu le liras, ou l'éditeur le lira.
Non, il ne faut pas qu'on révèle, ce qui se passe.
En 1946-47, on a conseillé, on a préconisé les mariages entre les prisonniers et les femmes françaises. Tu vois, en 2 ans, ça avait basculé des 2 ans, 3 ans, enfin, tu vois.
Alors, on va faire une petite pause. Je crois que tu as souhaité qu'on mette dans cette émission un titre de Marlène Dietrich, c'est Lili Marlène, alors pourquoi ?
Ah, eh bien si tu l'as trouvé, et je t'en remercie, je vois que tu... je trouve que, d'ailleurs elle est rapidement évoquée, cette chanson, dans le livre, là, parce que c'était une chanson allemande, extrêmement nostalgique, de la plainte des gens, des jeunes, qui avaient été séparés par la guerre. Et autant d'un côté que de l'autre, autant chez les Alliés que chez les Allemands. Et je crois, je n'ai pas le terme en tête, mais il y a un des dignitaires allemands qui a interdit cette chanson parce qu'elle démoralisait les troupes. C'était le regret du pays natal, c'était le regret de l'amoureux, c'était très important. C'est pas au début. Enfin, à l'origine de la chanson, d'ailleurs elle remonte presque en 14, mais Marlène Dietrich l'a utilisée bien après, mais elle a retenti sur les troupes de Rommel en Libye, elle a été chantée partout, quoi. Très très important.
Eh bien écoute, on va écouter Marlène Dietrich, Lili Marlène, puis on se retrouve tout de suite après.